Donc, poursuivons notre série, le mariage qu'en dit la Bible, et après le premier volet qui nous a rappelé Eric tout à l'heure, sur lequel il nous a enseigné la semaine dernière, le mariage qu'en dit le Créateur, nous abordons notre deuxième volet avec aujourd'hui le mariage qu'en dit Jésus. Et nous avons sur ce sujet donc un texte clé qui se trouve dans l'Évangile de Matthieu, que je vous invite à ouvrir, au chapitre 19. Lorsque Jésus eut fini de prononcer ces paroles, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, de l'autre côté du Jourdain. De grandes foules le suivirent, et là il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent, et pour lui tendre un piège, ils lui dirent « Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif ?» Il répondit « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, a fait l'homme et la femme, et qu'il a dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner une lettre de divorce à la femme lorsqu'on la renvoie ? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer de vos femmes, mais au commencement, ce n'était pas le cas. Mais je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. En effet, il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, d'autres le sont devenus par les hommes, et il y en a qui se sont fait eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Juste une petite précaution de vocabulaire. Lorsque je ne spécifierai pas homme ou femme, mais que j'emploierai malgré tout le masculin, ce sera pour parler de conjoint. Donc ce ne sera pas avec une orientation définie dans un sens de l'homme ou de la femme de l'autre, mais d'une personne du couple qui peut être l'homme ou la femme, le conjoint. Voilà. Donc, dès le début de l'échange que nous voyons ici, que nous lisons ici, on voit tout de suite que le contexte est pourri. Les personnes qui adressent leurs questions à Jésus ne viennent en fait pas pour avoir des réponses aux questions qu'elles se posent, mais pour lui tendre un piège. Quelle est la question ? Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif ? Alors, en quoi consiste ce piège ? Calvin l'a bien perçu. Si Jésus dit non, il pourra être accusé d'abolir la loi. Et s'il dit oui, on l'accusera de lâcher la bride aux passions coupables de mari concupiscent. Car en fait, la réalité sociale de l'époque est que bon nombre de divorces n'avaient d'autre but que de permettre de se remarier avec une femme plus intéressante. Et donc, qu'il réponde oui ou qu'il réponde non, ce serait, pour les pharisiens, un boulevard qui s'ouvre à eux pour le confondre. Ah, qu'on aimerait, que nous aimerions avoir des réponses par oui ou par non à toutes les questions que nous nous posons. Et Jésus fait référence au commencement, à l'ordre créationnel que nous avons abordé la semaine dernière. Et sans doute les choses étaient-elles plus simples avant que le péché ne vienne tout compliquer tous les domaines de notre vie. Dieu a fait les hommes droits, nous dit l'Ecclésiaste, mais eux, ils ont cherché beaucoup de détours. Si vous avez quelques minutes à la fin de ce culte, je vous invite à aller voir Simon Nicole, qui se trouve ici, qui n'est pas prévenu, que je vais le citer, d'où sa surprise, et de vous montrer les dessins qu'il fait au gré de ce que lui inspirent nos rencontres. Et demandez-lui en particulier de vous montrer le dessin des cases à cocher et de vous l'expliquer. Notre époque adore traiter les sujets en cochant des cases. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça c'est, on le trouve partout, puis au niveau informatique c'est tellement plus facile. C'est tellement plus simple, on est comme pris en charge en quelque sorte. Les questions sont déjà posées à notre place. Mais il y a quand même plusieurs problèmes. Le premier, c'est l'exhaustivité. Est-ce que toutes les options sont bien représentées? Et même en excluant toute forme de malhonnêteté intellectuelle, comment être sûr qu'on en a fait le tour? Le deuxième problème, c'est la nuance, la pondération. Cocher, c'est 100%, ne pas cocher, c'est zéro. Cocher ou ne pas cocher, telle est la question. Et le troisième problème, c'est l'interaction. Combien de fois n'avons-nous pas souhaité revenir sur une case déjà cochée parce qu'une autre était incohérente avec celle-ci? Alors, certains modèles plus élaborés mathématisent un peu les réponses par une pondération numérique, de 0 à 10, mais compliquent également l'interprétation. Et ici, la question posée est très simple et sans nuance. Est-il permis à un homme de divorcer de sa femme pour n'importe quel motif? Deux cases, oui ou non. Et ici, c'est évident, Matthieu l'a bien identifié, il s'agit de tendre un piège à Jésus. Un auteur juif du XXe siècle, Martin Gray, a raconté dans son livre son expérience vécue avec les nazis à Varsovie et dans un camp de concentration. Il s'est trouvé de nombreuses fois face à un choix qui lui était imposé, pareil, deux cases, aller à droite ou aller à gauche, oui ou non, se porter volontaire ou rester dans le rang. Et en fait, il s'est rendu compte que les deux voies, l'une comme l'autre, menaient à la mort. Et il a donc rapidement adopté un principe de survie qu'il exprime de cette manière. De deux solutions, je choisis toujours la troisième. Et il semble que c'est aussi ce que Jésus fait ici, ne pas se laisser enfermer dans un choix fallacieux. Et surtout, saisir la balle au bon qui passe là et retourner la situation pour en faire une occasion de donner un enseignement sur des questions qui se posent vraiment. Que se posent tous ceux qui sont là, autour d'eux, et que devraient peut-être se poser les pharisiens eux-mêmes. Et en 21 siècles plus tard, nous en sommes toujours là. Je suis sûr que nous sommes tous avides d'entendre de la bouche de Jésus lui-même son enseignement au sujet du divorce. Quelles sont les cases à cocher pour qu'un divorce soit légitimement envisageable? Mais avant de dispenser son enseignement sur le divorce, il va commencer par donner son enseignement sur le mariage, sur l'ordre créationnel, ainsi que nous l'avons vu la semaine dernière, sur la finalité du mariage, ne faire plus qu'un, une seule chair, dans d'autres traductions, sur l'origine divine de l'union maritale. Et c'est dans un deuxième temps seulement que Jésus va esquisser une réponse sur la question du divorce. Du fait de son origine divine, le mariage ne peut pas être rompu par l'homme, pas plus qu'un juge belge ou suisse de statuer sur la dissolution d'un mariage prononcé par un officier d'état civil français. Alors, avant d'aller plus loin, il nous faut souligner que les situations où la question du divorce se pose constitue l'une des plus grandes épreuves personnelles et familiales qui puissent être vécues. L'expression ici, une seule chair, ne faire plus qu'un, prend tout son sens. Trancher à vif dans une seule chair, c'est ne peut se faire qu'au prix d'une immense souffrance. L'aspect juridique de la question ne doit pas nous conduire à faire abstraction de cette profonde souffrance des personnes qui se trouvent ainsi amputées d'une partie d'elles-mêmes. Une réaction m'a beaucoup interpellé dans ce passage. Elle n'émane pas des pharisiens, mais des disciples de Jésus. Si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, il vaut mieux ne pas se marier. Alors, comment comprendre cette conclusion que des disciples de Jésus peuvent tirer du présent enseignement ? Il vaut mieux ne pas se marier. Qu'est-ce que ça signifie ? Que signifie cette expression, cette déclaration dans la bouche d'un juif du 1er siècle ? De quoi parle-t-on ? Alors, je tenterai d'y répondre dans quelques instants, mais auparavant, je vous invite à faire un petit détour et à la déplacer, à la transporter dans notre époque. Car enfin, l'affirmation est d'une actualité brûlante. Il vaut mieux ne pas se marier, c'est une des paroles les plus entendues aujourd'hui. Mais la même question se pose, de quoi parle-t-on ? Quelle est l'alternative au mariage aujourd'hui ? Le célibat ? Mais quel célibat ? Un célibat abstinent sur le plan sexuel ? Ou celui qui laisse libre cours aux expériences sexuelles les plus variées ? Vous savez, la célibataire hein, que, entre guillemets, qui s'affiche au milieu des publicités au bas de l'écran de votre smartphone et qui vous lance un regard aguicheur. On dit que c'est une célibataire. Et célibataire a ce petit côté craquant hein, qui vous invite à des expériences incroyables. Sinon, autre alternative, l'union libre, reconnue par l'État français sous le nom de concubinage, ou encore le PACS. Alors, si on peut assez facilement faire le tour de toutes les interprétations modernes d'une telle déclaration, peut-être il est plus difficile de comprendre ce qu'il y a derrière la tête des disciples de Jésus dans leur contexte. Néanmoins, il semble que la réponse de Jésus, qui évoque les eunuques, premièrement sous une forme de castration subie, c'est-à-dire de naissance, ou parce que d'autres s'en sont chargés sans leur demander leur avis, et deuxièmement pour décrire l'abstinence comme une forme volontaire et symbolique de castration, non pas physique, mais voilà, symbolique, il semble que quand même l'alternative au mariage qu'ils ont en tête, en prononçant ces paroles, soit le célibat sexuellement abstinent. Il me semble que si Jésus avait détecté quelque hypocrisie dans leur esprit, à contourner les contraintes des mariages, à désirer vivre tous les avantages du mariage sans s'engager avec l'autre, et plus encore à vivre un célibat sexuellement actif, il l'aurait dénoncé. Ce sont tout de même des disciples, et donc désireux de suivre les prescriptions de leur maître, même si, comme nous tous sans doute ici, ils ont du mal à s'affranchir totalement des travers de leur temps. Si telle est la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, disent-ils, il vaut mieux ne pas se marier. Alors moi, une chose m'a frappé dans cette déclaration, c'est à quel point elle fait écho à celle que nous a abondamment commentée Éric la semaine dernière, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu a déclaré dès le commencement, dès la création, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce à quoi l'homme répond quelques siècles plus tard, et fort de toute son expérience, et quelle expérience, il vaut mieux pour l'homme de ne pas se marier. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, avait pourtant dit Dieu, et on perçoit dans ces quelques mots l'amour débordant de Dieu pour sa créature. Il a, dès les premiers instants, le souci de son bonheur, de son bien-être. Il veut que l'homme soit heureux. Et comme il a souhaité partager son amour avec la créature à laquelle il est attaché, il veut que l'homme partage son amour avec un vis-à-vis qui lui soit pareillement attaché. Et il vaut mieux ne pas se marier. Ces quelques mots traduisent mieux que n'importe quelle description ce que l'homme a fait de cette union, un contrat, un deal, hein, comme on dit aujourd'hui, une vision comptable tendant à équilibrer le passif et l'actif, le donner et le recevoir. Au commencement, ce n'était pas le cas, dit Jésus. Le donner-recevoir ne s'inscrit pas dans la perspective de ne former plus qu'un, de ne former qu'un, une seule chair. La perspective de ne former plus qu'un, c'est de se donner et de se recevoir, afin de constituer ensemble cette chair unique voulue par Dieu. Je souriais quand j'ai vu le passage qu'Éric a choisi pour l'offrande, donner, recevoir. Mais venons-en à la question de fond posée par les pharisiens, et surtout à la réponse donnée par Jésus. Et je cite ici Stéphane Guillet, dans un livre, « Famille et conjugalité, regard chrétien pluridisciplinaire ». Face à la légèreté de ses interlocuteurs, Jésus propose une mise en perspective. Il renvoie à l'institution divine du mariage, selon les récits de la Genèse. Jésus insiste particulièrement sur le fait qu'un homme quittant père et mère pour s'attacher à sa femme devient avec elle une chair unique. Et il insiste sur ce « devenir un », de sorte qu'ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'humain ne le sépare pas. Dieu veut rappeler que le mariage doit être pris au sérieux. C'est une œuvre divine. De par le lien qu'il a institué, c'est Dieu lui-même qui unit les conjoints. Il convient d'en prendre conscience dans toute discussion sur la répudiation. Et donc, à cette première réponse de Jésus à leur question, l'objection des pharisiens est immédiate. Dans ces conditions, si le divorce n'est pas envisageable, pourquoi Moïse nous a-t-il donné une lettre, une règle à suivre pour se pour renvoyer sa femme? Nous arrivons au moment charnière de l'entretien, et le point pivot, c'est la mention de la dureté du cœur humain. La dureté du cœur humain qui a du mal à entrer dans la perspective d'une seule chair, qui n'est jamais complètement pure dans sa relation avec son vis-à-vis, pas plus d'ailleurs que dans sa relation avec Dieu. La vision comptable, nous en avons parlé, le donnant-donnant, le soupçon quant aux motivations. Le cœur humain a bien du mal à s'en départir. Alors, nous y sommes peut-être plus sensibles en ce début de XXIe siècle, mais une des manifestations quasi évidentes de la dureté du cœur humain réside dans notre texte, dans la dissymétrie évidente qui règne ici entre la condition de l'homme et celle de la femme. On n'y parle que de répudiation de la femme. Que le divorce n'est qu'à l'initiative de l'homme. L'idée que la femme aurait des raisons de divorcer de son mari ne semble jamais leur avoir traversé l'esprit. La dureté de cœur se manifeste dans le couple tout autant que dans la société. Ceux qui se sont engagés à marcher dans les pas de Jésus apprennent jour après jour à la reconnaître, cette dureté de cœur, et à attendrir leur cœur. Mais il faut reconnaître, nos progrès se font bien souvent au travers de crises ravageuses et au prix d'émotions destructrices que nous infligeons les uns aux autres. Un couple affirmait fièrement un jour à un conseiller conjugal, « Chez nous, dans notre couple, il n'y a jamais d'orage. » À quoi il a répondu, « Au pôle Nord non plus. » Et l'atmosphère est glaciale. S'il n'y a jamais d'orage, il ne doit pas y avoir beaucoup de soleil non plus. Combattre la dureté de notre cœur, ça c'est notre part personnelle, intime. Mais dans une dimension sociétale à laquelle il y a une part avec laquelle il faut composer. La société doit composer. faire avec, s'accommoder au mieux qu'elle le peut de la dureté du corps humain. Et l'Église n'y fait pas exception. Elle se trouve confrontée à des situations d'échec que la dureté du cœur humain a provoquées et aggravées. Moïse, dont il est fait question, a dû affronter et s'accommoder de telles situations. Je cite de nouveau Stéphane Guillet. Jésus ne prétend nullement qu'il y a un commandement ouvrant droit au divorce. Il admet cependant qu'implicitement, il y a permission mosaïque. Ce faisant, il reconnaît une forme d'accommodement divin à la réalité. Si Moïse l'a permis, c'est que Dieu l'a permis. Toute la question est de savoir ce qu'on fait de cette permission. Est-ce la porte ouverte à tous les possibles ? Cela légitime-t-il la répudiation pour n'importe quel motif ? Évidemment non. Jésus lance ici son pavé dans la mare. Je vous le dis, celui qui répudie sa femme, sauf pour inconduite sexuelle, et en épouse une autre, commet l'adultère. C'est bien ce que nous avons lu. Et en quoi consiste donc le pavé dans la mare, lancé par Jésus, le lien établi entre divorce et adultère, bien sûr. Et si, comme nous l'avons dit, on considérait le divorce avec, je continue de lire Stéphane Guillet, on considérait le divorce avec beaucoup de légèreté, il en allait tout autrement du temps de Jésus de l'adultère. L'adultère était une faute gravissime. On le voit avec l'épisode justement où on amène une femme adultère à Jésus. Punissable de mort. Jésus ne voulait-il pas conduire à une prise de conscience, produire une sorte d'électrochoc ? C'était donc ça. L'arrière-pensée de bon nombre de divorces engagés par des hommes dans ce contexte était de leur permettre d'épouser une autre femme tout en gardant la tête haute. Et alors là, la mention de l'adultère a bien dû les refroidir, hein. Surtout quand on sait ce que ça représente à ce moment-là. Et d'où peut-être la réaction des disciples certes, mais tout, forcément influencés par les agissements de notre époque, de leur époque, comme nous de la nôtre. Dans ces conditions, autant opter pour le célibat abstinent, bien sûr. Et Jésus de leur exposer en retour les trois bonnes causes d'un célibat abstinent. Premièrement, le handicap sexuel de naissance. Deuxièmement, la castration forcée pour tout un tas de raisons qu'on jugerait aujourd'hui abusives, mais qui avaient monnaie courante. Et puis le choix libre et volontaire d'un célibat serein, définitif ou du moins à long terme, et bien décidé à ne pas s'engager dans une vie sexuelle hors cadre. En dehors de ces trois cas, aucune raison de se priver du mariage et de ses bienfaits. Alors, revenons à la question du divorce et des accommodements auxquels Moïse et Dieu lui-même ont consenti face à des situations dramatiques vécues par des hommes et des femmes dans leur couple et ayant des répercussions forcément sur les enfants. Et les responsables d'Église ont de tout temps été plus ou moins confrontés à de telles situations, et aujourd'hui ils le sont plus que jamais. Nous parlons bien entendu de couples chrétiens, de couples de chrétiens, ou de couples mixtes, c'est-à-dire de couples dans lesquels au moins un des membres est chrétien. Comment aborder ces situations dont le point commun est toujours une immense détresse. Ces responsables peuvent-ils approuver certains divorces ? Peuvent-ils aller jusqu'à le conseiller ? Y a-t-il une liste de cases à cocher ? La complexité, la diversité, la singularité des situations rencontrées sont telles que on fait face si on entreprenait une telle chose, à une infinité de nuances. Toujours selon Stéphane Guillet, Il nous propose une suggestion pour aider au discernement. On peut recevoir l'enseignement biblique de deux manières, qu'on pourrait qualifier l'une de juridique et l'autre de pastorale. Si l'on met en avant la dimension juridique, on sera enclin à affirmer que la Bible interdit toujours le divorce, sauf en cas d'inconduite sexuelle, et pour un mariage mixte en cas de désertion du conjoint non chrétien. Si l'on met en avant la dimension pastorale, on sera plus enclin à tenir compte de la diversité infinie des situations. Les enseignements bibliques apparaîtront comme des lois. Ils fixeront des limites à ne pas franchir et laisseront la porte ouverte à une certaine souplesse. Parle de souplesse à l'intérieur de limites. Et quelles limites, donc qui dit limite dit infranchissable, trouvons-nous dans le texte aujourd'hui? Le remariage d'une personne divorcée que Jésus assimile à un adultère en est clairement une. Le remariage d'une personne divorcée. Mes feuilles là. Pardon, c'est quand même curieux ça. Je n'en ai pas laissé une. Ah si. Désolé, hein, c'est une coupe dans mon élan. Le mariage d'une personne divorcée ne peut pas être approuvé et encore moins encouragé. Recourir au divorce en pensant retrouver toute sa liberté, le texte, le même regard que les pharisiens portaient sur la loi de Moïse, un regard juridique. De manière plus moderne, on peut le considérer comme une liste de cases à cocher. Mais rappelons-nous ce que nous avons dit un peu plus tôt. L'adultère était, dans cette société, un péché gravissime. Or, Jésus lui-même nous a sensibilisés aux formes cachées de l'adultère, la concupiscence, aux formes tout à fait légales du meurtre, l'injure. On en revient à la dureté du cœur, à la source qui est la dureté du cœur. Ainsi, je peux négliger et délaisser mon conjoint tant que je ne suis pas infidèle, tout va bien. Je peux le mépriser. L'humilier, tant que je ne vais pas voir ailleurs, tout va bien. Je peux même le violenter psychologiquement et même physiquement, tant que je respecte mon engagement de fidélité, il n'a aucun motif de divorce. En était-il ainsi au commencement? Était-ce cela vraiment qui figurait au programme du Créateur pour le coup? Aujourd'hui, comme au commencement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais est-il bon pour cette personne de rester dans une telle situation? Est-ce elle qui manifeste de la légèreté vis-à-vis de son mariage? Est-ce elle qui met son mariage en péril? Est-il bon que les enfants continuent d'en subir les dommages? Qui sont les victimes dans cette affaire? Des questions qui se posent. Tout comme nous l'enseigne ici Jésus, le mariage ne peut pas être pris à la légère. Tout ce qui est possible doit être mis en œuvre pour le préserver. Et la réconciliation est toujours le premier objectif. Et le divorce, toujours le dernier recours. Pour se soustraire à l'inacceptable. Mais le divorce non plus ne peut pas être pris à la légère, car il y a dans le divorce un autre engagement, celui du célibat, et du célibat abstinent, bien sûr. Au commencement, Dieu a voulu que l'homme et la femme soient heureux en mariage. Là où se manifeste le désaccord, Dieu prône la réconciliation. Là où l'homme cherche les conditions permettant la séparation des époux, Dieu rappelle les conditions qui président à leur union. Dieu enfin compatit aux souffrances de ceux qui ont été victimes dans le cadre de leur mariage. quel que soit le point par lequel nous sommes concernés par ce passage, à divers, à quelques niveaux que ce soit, par tous les sujets abordés aujourd'hui, nous sommes tous tombés dans le péché. Et Dieu nous a tous rachetés. Et il veut tous nous relever. Et pour terminer, je vais citer, lire un texte de l'Ancien Testament qui se trouve dans les petits prophètes, Michée au chapitre 7, verset 7. « Mais moi, je regarderai vers l'Éternel et je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut. Mon Dieu m'exaucera. Ne te réjouis pas, mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Amen.